L'œil de Schrödinger, le podcast qui traque les mystères de la science entre le possible et l'impossible. Dans Sous l'œil de Schrödinger, votre rendez-vous hebdomadaire pour décortiquer les actualités scientifiques. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui ressemble autant à un scénario de science-fiction qu'à une réalité scientifique, les neurotechnologies. Derrière ce mot un peu intimidant se cache une idée simple mais vertigineuse, connecter le cerveau humain à des machines. Et oui, littéralement. Alors, jusqu'où peut-on aller? Peut-on vraiment contrôler un ordinateur par la pensée? Redonner la parole à des personnes paralysées, ou même augmenter les capacités du cerveau, et surtout, à quel prix?
Eh oui, c'est un champ de recherche à la fois fascinant et inquiétant, parce qu'on parle ici d'un lien direct entre notre activité neuronale, donc nos pensées, nos intentions, et des dispositifs technologiques. Et ça, ça change tout, ce n'est plus seulement le corps qu'on soigne ou qu'on prolonge, c'est l'esprit, la conscience, la volonté, on touche à ce qui fait notre humanité.
Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas de la science-fiction. Des patients équipés d'implants cérébraux, eh ben, ça existe déjà. Il y en a aux États-Unis, en Suisse ou encore en Australie. Ils contrôlent un curseur, une main robotique ou même Alexa, juste en y pensant. Mais cela, on en reparlera.
On va aussi explorer les promesses médicales pour les maladies neurodégénératives, les paralysies, les troubles psychiatriques, mais aussi les dérives potentielles, surveillance mentale, manipulation et accès aux pensées. Et tu verras, Clément, que les frontières entre soins, augmentation et contrôle ne sont pas si claires.
D'autant plus qu'en toile de fond, il y a des enjeux géopolitiques énormes. Les États-Unis, la Chine, l'Europe, tout le monde investit. Parce que la nation qui maîtrisera ces technologies maîtrisera potentiellement le cerveau humain. Et dans un monde où la donnée est un pouvoir, la donnée cérébrale, eh bien, c'est l'arme ultime.
Et si on vous dit que certains États envisagent déjà de protéger les pensées comme des données sensibles, vous comprendrez que ce n'est pas juste de la médecine, c'est une révolution mentale, sociale et juridique.
Alors, dans cet épisode, on va se demander comment fonctionnent ces interfaces cerveau-machine, qui les développe, à quoi peuvent-elles vraiment servir et quelle ligne rouge ne faudrait-il pas franchir? Alors, branchez vos neurones, ajustez vos écouteurs, et plongez avec nous dans le monde fascinant des neurotechnologies. Sous l'œil de Schrödinger, c'est parti. Bon, Célia, on entre dans le dur. Quand on parle de neurotechnologie, on pense tout de suite aux fameuses interfaces cerveau-machine. Mais concrètement, c'est quoi ce truc-là?
Alors, une interface cerveau-machine, ou ICM, c'est un système qui fait le pont entre l'activité de notre cerveau et une machine. Grosso modo, on capte des signaux électriques produits par nos neurones, on les traduit en langage numérique, et ces signaux peuvent ensuite piloter un ordinateur, un bras robotique, voire même un exosquelette, ou générer une voix artificielle.
Donc c'est un peu comme brancher le cerveau sur une prise USB.
Exactement, sauf que la prise doit comprendre le langage très très complexe des neurones. Imagine un orchestre symphonique qui joue dans tous les sens et sans partition. L'ICM doit non seulement écouter, mais deviner quelle musique tu veux jouer.
Oui, c'est là que ça devient vertigineux. On parle de quoi là? 86 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres? C'est vraiment un bazar organisé. Et pourtant, on arrive à y trouver du sens, ou en tout cas en extraire des intentions.
C'est là que les chercheurs ont fait des choix. Il existe deux grandes approches pour capter l'activité cérébrale, les non-invasives et les invasives.
Alors, pour faire simple, les non-invasives, c'est un peu le mode observation prudente. On ne touche pas au cerveau directement. On utilise pour cela des casques électroencéphalogrammes qui enregistrent l'activité électrique à travers le cuir chevelu.
Eh oui, l'électroencéphalographie, c'est indolore, sans chirurgie, mais ça reste quand même assez limité. La précision spatiale, elle est assez faible et le signal, il est atténué par la boîte crânienne. Mais ça reste quand même très très utile. On l'utilise en neurosciences, dans les hôpitaux, mais aussi dans des applis de relaxation ou des jeux expérimentaux.
Ah oui, je me souviens d'avoir testé un casque EEG avec une application de méditation. Dès que je me concentrais sur un son, ça lançait une ambiance sonore zen. Pas très médicale, mais amusant.
Oui, et de l'autre côté, on a des interfaces invasives. Là, on entre vraiment dans le cerveau, chirurgicalement. On implante des électrodes directement dans le cortex, parfois à seulement quelques millimètres de zone motrice.
Oui, effectivement, là on change de niveau. Le signal est beaucoup plus net, plus précis. C'est ce qu'on appelle les ICM intracrâniennes, et c'est ici qu'interviennent les projets les plus impressionnants et parfois, il faut bien le dire, les plus controversés.
Ah, tu fais allusion à Neuralink, je suppose.
Évidemment, Neuralink, la start-up d'Elon Musk, développe un implant cérébral qui ressemble à une petite pièce de monnaie. Ce petit disque est greffé dans le crâne avec des dizaines de fils ultra fins, plus fins qu'un cheveu, et qui plongent dans le tissu cérébral.
Et en 2024, ils ont franchi un cap. Le tout premier patient humain a été implanté. Il est devenu capable de déplacer un curseur sur un écran, et ce, juste par la pensée.
Oui, c'est bluffant. Alors, certains scientifiques critiquent un peu le battage médiatique autour de Neuralink, qui est très Musk-style, mais technologiquement, c'est très sérieux. Ils travaillent sur des signaux neuronaux haute résolution, sans fil, avec une puce connectée en Bluetooth.
Et l'objectif ne s'arrête pas là. Musk évoque des projets très ambitieux. Restaurer la vue, soigner la dépression résistante, voire fusionner l'homme avec une intelligence artificielle. Mais pour l'instant, on reste quand même dans un cadre thérapeutique.
Heureusement, d'autres chercheurs plus discrets avancent tout autant. En Suisse, par exemple, une équipe a relié le cerveau d'un patient paralysé à sa moelle épinière via un pont numérique, une double greffe électronique. Résultat, l'homme a pu remarcher.
Et ce n'est pas un simple réflexe, il commande un exosquelette par la pensée. On contourne littéralement la lésion médullaire. Une connexion cerveau-machine-corps. On pensait ça impossible il y a 10 ans.
Totalement. Autre cas incroyable, les personnes atteintes du syndrome d'enfermement ou locked-in syndrome. Le corps ne répond plus, mais la conscience est intacte. Grâce à un implant, certaines personnes peuvent épeler des mots lettre par lettre, et ce, juste par la pensée.
On ne lit pas dans les pensées, mais on capte les intentions cérébrales. C'est une sorte de télépathie numérique.
Mais ça ne s'arrête pas là. Meta développe un bracelet capable de capter les impulsions nerveuses au poignet pour détecter ce que vous allez taper avant même que vos doigts ne bougent.
Oui, c'est une interface périphérique, mais c'est le même concept, raccourcir le chemin entre l'intention mentale et l'action numérique.
Donc, si on résume, les ICM sont déjà là. Elles fonctionnent. Elles changent des vies même. Mais elles posent aussi des questions immenses sur la durée de vie des implants déjà, sur la sécurité des données, ou encore ce qu'on peut faire avec ces technologies qui sont peut-être contre nous.
Et ce sont exactement ces questions qu'on va explorer dans les prochaines parties. Mais avant, on va vous faire entendre la voix de ceux qu'on n'écoute pas assez, les patients eux-mêmes.
Ce qui rend ces technologies réelles, ce ne sont pas seulement les publications scientifiques ou les conférences de presse, ce sont les témoignages des patients eux-mêmes. Et ces témoignages nous rappellent une chose. Derrière chaque interface cerveau-machine, il y a une personne, une vie, un quotidien bouleversé.
Exactement. L'un des témoignages les plus médiatisés, c'est celui de Noland Harbaugh. Il a 29 ans et il est devenu tétraplégique à la suite d'un accident de plongée. En janvier 2024, il devient le premier humain à recevoir un implant de Neuralink. L'objectif, lui permettre de contrôler un ordinateur uniquement par la pensée.
Et pendant les premières semaines, c'était bluffant. Il a raconté avoir pu jouer à Civilization VI, un jeu de stratégie complexe, pendant plusieurs heures, et ce, uniquement avec son cerveau. Il surfait sur Internet, écrivait des messages, tout ça sans bouger un muscle.
Oui, mais tout n'a pas été parfait. En mars, la presse spécialisée révèle que plus de 85% des fils de l'implant se sont rétractés dans le cerveau de Noland. Ces minuscules électrodes, censées capter les signaux neuronaux, ont bougé. Et du coup, la qualité du signal a chuté.
Et c'est là que tu vois le dilemme technologique. Ce n'est pas une panne d'iPhone qu'on peut renvoyer au SAV. C'est un implant dans un cerveau humain vivant. Et d'ailleurs, l'équipe de Neuralink a réagi en modifiant les algorithmes de décodage pour s'adapter à un nouveau signal. Résultat, ils ont réussi à restaurer une partie des fonctionnalités, mais pas tout.
Mais Noland reste positif. Il dit que malgré les complications, l'implant lui a redonné une forme d'indépendance et un contact avec le monde qu'il avait perdu. Il participe activement aux recherches et devient presque un ambassadeur involontaire de cette technologie.
Et il n'est pas le seul. Un autre cas marquant, c'est celui de Brad Smith, un pseudonyme utilisé dans certains médias. Il souffre de la SLA, donc la sclérose latérale amyotrophique. et il a perdu l'usage de la parole, mais pas sa capacité cognitive.
Oui, avec un implant similaire à Neuralink, Brad arrive à déplacer un curseur sur un écran, écrire des phrases, et même, et ça, c'est dingue, vous allez voir, créer une vidéo où il parle avec une voix clonée par l'intelligence artificielle, recréée à partir d'anciens enregistrements. C'est presque une nouvelle forme de présence numérique.
Oui, et ce qui est fort, c'est que Brad peut exprimer ses idées, ses émotions, ses opinions, alors qu'avant, il était enfermé dans son corps. C'est une victoire de la technologie pour la dignité humaine, quoi qu'on en dise.
Et oui, et on peut aussi parler de Marc, un patient de 64 ans, également atteint de la SLA. Il est greffé avec un implant de la société Synchron qui utilise une technique différente de Neuralink. L'implant passe par la veine jugulaire jusqu'au cortex moteur, donc sans chirurgie invasive du cerveau. C'est un stentrode, un stent avec des électrodes, et ça évite d'ouvrir la boîte crânienne.
Et Marc s'en sert pour contrôler des objets connectés chez lui. Il peut dire à Alexa d'allumer la lumière, envoyer des SMS ou encore naviguer sur Internet. C'est modeste technologiquement, mais révolutionnaire pour son autonomie.
Et puis, ses patients témoignent aussi des aspects émotionnels. L'un d'eux raconte qu'il avait l'impression de ne plus être un fardeau pour sa famille, que grâce à l'implant, il pouvait retrouver un rôle actif dans son foyer. Ça, aucun algorithme ne peut le mesurer.
Ce qui me frappe ici, c'est qu'on parle ici d'êtres humains qui deviennent les pionniers involontaires d'un avenir très proche. Ils testent pour nous, parfois au prix de leur confort, les limites de ce que l'on pourra faire demain avec nos cerveaux.
Mais attention, tous les témoignages ne sont pas euphoriques. Certains patients rapportent des difficultés d'adaptation, une fatigue mentale ou le sentiment d'être surveillé à travers leur activité cérébrale. Il y a des enjeux quand même psychologiques qui sont très lourds et pour l'instant la médecine n'a pas encore toutes les réponses.
Et c'est là que le rôle de la société devient crucial. Qui va accompagner ces patients sur le long terme? Qui va gérer la maintenance de leurs implants? Et comment on évite que certains deviennent des cobayes marketing pour des entreprises tech?
Et c'est pourquoi ces témoignages sont essentiels. Ils ne parlent pas seulement de technique, ils parlent aussi d'humanité, de résilience, d'éthique et malgré tout d'espoir.
Et en tant que journaliste, je me dis qu'il est de notre devoir de rendre ces histoires visibles pour que la science reste au service de l'humain et non l'inverse. Alors là, Célia, on entre dans un terrain sensible. Ces technologies, aussi fascinantes soient-elles, posent des questions éthiques majeures. Quand on parle d'implants cérébraux, d'interfaces cerveau-machine, comme celles développées par Neuralink ou Synchron, on touche à des notions très profondes. La vie privée, l'autonomie individuelle ou encore le libre arbitre. Et bien sûr, également, la protection des données cérébrales.
Exactement. Ce qui nous distingue, c'est notre cerveau. Et c'est justement là où ces technologies nous challengent. Si ces dispositifs permettent de lire l'activité cérébrale, comme c'est déjà le cas dans certaines expériences cliniques avec des patients paralysés, voire de l'influencer, où commence l'intimité? Qui a le droit d'accéder à nos pensées, nos désirs, nos souvenirs? Elon Musk a dit que Neuralink pourrait un jour télécharger des souvenirs. Mais qui les contrôle? Et surtout, à quel moment franchit-on la ligne rouge en termes de manipulation mentale?
C'est pour ces raisons que l'UNESCO en 2021 a lancé un groupe d'experts internationaux sur les neurotechnologies, dans le cadre de son comité international de bioéthique. Leur objectif, formuler des principes éthiques globaux qui servent de cadre aux États pour encadrer ces technologies. Parce que oui, on parle de liberté fondamentale. Par exemple, la liberté de penser, un droit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, et qui pourrait être menacé si une IA commence à interférer avec notre raisonnement ou nos émotions.
Ça pose la question de la vie privée mentale. En ce moment, il n'existe aucune législation harmonisée au niveau mondial sur les neurodonnées. Or, ces données peuvent révéler beaucoup plus qu'un dossier médical classique. Elles peuvent exposer nos émotions, nos intentions, nos vulnérabilités. Qui y a accès? Les fabricants, comme Kernel ou Emotive? Les États? Des assureurs? En 2023, au Chili, ils ont été les premiers au monde à inscrire la protection des neurodroits dans leur constitution. Ce qui représente un signal très fort.
Et c'est révélateur d'une inquiétude croissante. Aux États-Unis, en 2021, plusieurs sénateurs ont interpellé la Federal Trade Commission pour demander une régulation urgente de la collecte de données par les entreprises de neurotechnologie. La raison? Ces données pourraient être vendues ou utilisées à des fins commerciales, voire politiques. Dans un régime autoritaire, ça pourrait donner lieu à un outil de surveillance mentale.
Ou même de contrôle. Est-ce que quelqu'un avec un implant reste totalement maître de ses pensées? Est-ce qu'un algorithme pourrait influencer des décisions ou des comportements? Certains projets militaires aux États-Unis ou en Chine explorent déjà des usages neuroergonomiques pour améliorer les performances des soldats. Où est la limite entre assistance et manipulation cognitive?
Et c'est là qu'entre en jeu un nouveau concept, la manipulation de la cognition. Si une entreprise via un implant peut induire des émotions ou guider un choix, est-ce encore du libre arbitre? Prenons l'exemple d'un implant qui suggère une publicité personnalisée en activant une zone du cerveau liée au plaisir. Est-ce encore un choix éclairé ou une influence inconsciente?
C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de neurodroit. Le neuroscientifique Raphaël Yuste, à l'origine de ce concept, milite pour qu'on reconnaisse 5 nouveaux droits fondamentaux. L'identité personnelle, la liberté de penser, la vie privée mentale, le libre arbitre et l'accès équitable à l'amélioration cognitive. Il collabore avec l'ONU et plusieurs gouvernements pour que ces droits deviennent universels.
Mais pour l'instant, ce ne sont que des recommandations. Aucun traité international ne protège encore véritablement les citoyens contre une mauvaise utilisation des neurotechnologies. Et pendant ce temps, les technologies avancent vite. Par exemple, en Chine, des expériences de surveillance émotionnelle en entreprise ont été documentées où des employés portaient des casques EEG pour détecter le stress du travail. C'est vertigineux.
Et ça soulève aussi des questions de justice sociale. Qui aura accès à ces technologies? Seulement ceux qui peuvent s'offrir un implant dernier cri à plusieurs dizaines de milliers d'euros? Ou bien les personnes vulnérables, les handicapés, les malades, deviendront-elles des cibles privilégiées d'expérimentation, comme cela a déjà été le cas par le passé dans l'histoire médicale?
Et c'est pour ça que la gouvernance mondiale devient cruciale sur ce type de sujet. Si l'on n'encadre pas ces innovations dès maintenant, on court le risque de créer une nouvelle fracture entre ceux qui pourront augmenter leur cerveau et ceux qui en seront exclus. Un peu comme le débat actuel sur l'accès à l'IA et à l'éducation numérique, par exemple.
Et cette fracture pourrait renforcer des inégalités déjà existantes. Une régulation internationale, comme un traité sur les neurotechnologies proposé par certains chercheurs, permettrait d'empêcher que certains pays deviennent des zones grises de l'expérimentation au détriment des droits humains.
Oui, et ce n'est pas seulement une question de technique ou de progrès. C'est une question de société, d'éthique et même d'ailleurs de démocratie. La façon dont on décide de réguler ou non ces technologies aujourd'hui définira ce que signifie être humain demain. Alors, Célia, quand on parle de neurotechnologie, on entre aussi dans un domaine où l'innovation et la souveraineté sont en jeu. Ce n'est pas une question scientifique ou technologique, c'est aussi une question de stratégie géopolitique. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne mènent une course effrénée pour dominer ce domaine, et chacun avance ses pions selon ses priorités stratégiques.
Exactement. Si tu regardes du côté des États-Unis, le secteur privé est au cœur de cette dynamique. Il y a bien sûr Neuralink, qui est fondé par Elon Musk, qui cherche à créer une interface cerveau-machine permettant à terme de fusionner avec l'IA. Mais il ne faut pas oublier Kernel de Brian Johnson ou BlackRock Neurotech qui développent aussi des implants cérébraux. En parallèle des institutions publiques, comme la DARPA, l'Agence de recherche avancée pour la défense, injecte des milliards de dollars dans des projets liés aux neurotechnologies.
Ah, la DARPA. On lui doit l'invention d'Internet, entre autres. En 2020, elle a lancé le programme Next Generation Non-Surgical Neurotechnology, également appelé N3, visant à développer des interfaces neuronales sans chirurgie invasive et utilisables par les militaires. L'idée est d'équiper les soldats de capacités cognitives augmentées, et cela passe par le contrôle de drones par la pensée, la communication silencieuse, ou encore la résistance accrue au stress en mission.
Et c'est là que ça devient vertigineux. Si un pays parvient à perfectionner ses technologies, cela ne changera pas seulement la médecine, mais aussi le visage de ses institutions. Dans le secteur de la santé, oui, on parle de progrès énormes pour des patients atteints de paralysie ou de troubles neurologiques, comme le montre le cas de cet homme tétraplégique en Suisse qui a retrouvé la capacité de marcher grâce à une interface cerveau-ordinateur connectée à sa moelle épinière. Mais dans un cadre militaire, on parle aussi d'amélioration de la performance humaine pour des opérations stratégiques. Mémoire augmentée, attention prolongée, prise de décision optimisée.
Et tout cela pose une question essentielle. À quel point est-on prêt à modifier l'humain? Parce que derrière cette course à la performance, il y a aussi un changement anthropologique. En Chine, par exemple, des programmes pilotes ont été rapportés dès 2019 dans certaines écoles primaires et entreprises où des casques mesurant l'attention des élèves ou des ouvriers via des signaux EEG ont été testés. Certains chercheurs parlent de neurosurveillance, voire de neuro-autoritarisme.
Exactement. En Chine, les objectifs stratégiques incluent aussi la fusion de l'intelligence artificielle et du cerveau humain, dans ce qu'ils appellent leur China Brain Project. C'est un plan à long terme qui vise à faire de la Chine un leader mondial dans le domaine des neurosciences d'ici 2030. Mais les implications en termes de liberté individuelle sont colossales. En intégrant ces technologies dans des outils de surveillance, le pouvoir politique pourrait théoriquement lire l'état émotionnel d'un citoyen ou détecter des signes de dissidence. C'est le cauchemar orwellien version neuro.
Et pendant ce temps, l'Union européenne essaie de tracer, elle, une voie plus éthique. L'approche européenne met l'accent sur la protection des droits fondamentaux en s'appuyant sur des cadres comme le RGPD qui pourrait inspirer une régulation spécifique pour les données cérébrales. Certains eurodéputés ont même évoqué la nécessité d'un RGPD de l'esprit. Le Conseil de l'Europe, lui, a lancé des consultations sur les neurodroits et des pays comme l'Espagne ont commencé à se positionner en ajoutant en 2021 a droit à l'identité cérébrale dans leur constitution.
La France aussi s'interroge. En 2021, un rapport du Sénat proposait une stratégie nationale pour les neurotechnologies, en insistant sur la nécessité d'un encadrement bioéthique et sur les risques de dual use, c'est-à-dire les usages civils et militaires potentiels. Les sénateurs appelaient à ne pas être naïfs. Il y a un risque de dépendance stratégique si l'Europe ne se donne pas les moyens de développer ses propres technologies.
Mais la réalité, c'est que cette gouvernance internationale est encore balbutiante. Il n'y a pas d'ONU, de la neurotechnologie, pas de traité international, et pendant ce temps, les États-Unis et la Chine avancent à grande vitesse. Le consensus mondial est difficile à obtenir quand les enjeux sont aussi stratégiques.
Et c'est bien pour cela qu'on parle aujourd'hui de neurotechnologie comme du nouveau champ de bataille technologique du 21e siècle. Ce n'est plus la conquête de l'espace ou des microprocesseurs, c'est celle de l'esprit humain. Et cela pose une question redoutable. Quel modèle de société voulons-nous créer avec ces technologies?
Et surtout, à qui voulons-nous confier le pouvoir de modifier notre cerveau? Les États, les multinationales, les militaires? La question n'est pas encore tranchée, mais une chose est certaine, la course est lancée et elle aura des conséquences profondes sur les équilibres internationaux. Technologies sont un peu comme un miroir de notre époque, reflétant à la fois l'immense potentiel du progrès scientifique et les défis considérables que cela implique pour nos sociétés. Ces technologies qui permettent de connecter notre cerveau à des machines ouvrent des perspectives incroyables, de la restauration de la mobilité pour des patients paralysés à la possibilité d'améliorer nos capacités cognitives en passant par le traitement des maladies neurodégénératives. Mais elles nous placent aussi devant une question cruciale. Comment faire en sorte que ces innovations servent l'humanité et non des intérêts privés ou politiques? Il est encore impératif que nous prenions conscience des risques, qu'ils soient éthiques, sociaux ou géopolitiques.
Effectivement, Clément, les neurotechnologies, c'est fascinant, mais elles soulèvent des interrogations profondes sur l'équilibre entre innovation et éthique. Quand la science s'avance aussi vite, il est de notre responsabilité en tant que société de poser des garde-fous. Les droits fondamentaux, comme la liberté de penser, la vie privée mentale et même la dignité humaine, doivent rester au cœur de nos préoccupations. Il est crucial que ces avancées ne deviennent pas des outils de manipulation ou de contrôle, mais bien des leviers pour améliorer la condition humaine dans son ensemble.
Et c'est là que le rôle du journalisme scientifique prend tout son sens. Nous devons informer, expliquer et surtout questionner. Nous devons être des médiateurs entre les chercheurs, les entreprises, les gouvernements et vous, nous, les citoyens. Parce que ces technologies ne concernent pas uniquement les scientifiques ou les politiques, mais bien chaque individu qui pourrait, dans un futur proche, être directement impacté par ces évolutions.
C'est exactement ça. Au-delà de l'enthousiasme qu'elles suscitent, ces technologies doivent être abordées avec un regard critique et une réflexion sur leur implication à long terme, que ce soit pour leur gestion des données, leur impact sur notre autonomie ou encore les décisions politiques qu'elles peuvent entraîner. Il est crucial de les réguler de manière à protéger l'individu et ses droits.
Merci à vous de nous avoir suivis dans cet épisode. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches ou en discuter autour de vous. L'avenir des neurotechnologies est entre nos mains. À nous de faire en sorte que cette avancée scientifique se déroule dans le respect des principes éthiques et humanistes qui nous sont chers.
Exactement. Et si vous avez des questions, des commentaires ou des idées de sujets à aborder, vous pouvez toujours nous contacter. Nous sommes toujours ouverts à vos retours et à vos réflexions. Et si vous voulez en savoir plus, jetez un coup d'œil à la bibliographie en description. À bientôt sous l'œil de Schrödinger pour un prochain épisode.